Bonjour à tous et merci d'être fidèles à l'émission Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche sur RMJ. Cette aventure, Claude Perronnet l'a commencée voici 6 ans, en septembre 2015. Cela représente 292 émissions et 184 chroniques. Claude Perronnet qui nous a promis d'atteindre la 200e chronique. Nous allons faire une petite pause et nous reprendrons le cours normal des émissions produites par Claude Perronnet à compter du 16 octobre 2021. En attendant, et chaque week-end, nous vous proposons la rediffusion des premières émissions, celles de septembre et octobre 2015.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.
Eh bien bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique de nos Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche. Aujourd'hui, puisque nous sommes en octobre, nous allons consacrer notre séquence à l'école. En effet, dans son ouvrage « Un parfum de récré », Jean Leur nous fait remarquer qu'il est né un 1er octobre, jour de rentrée des classes. Depuis les années 1960, la rentrée des classes se fait début septembre, mais pendant très longtemps, pour des raisons économiques, il fallait laisser les enfants plus longtemps travailler à la ferme, la rentrée se faisait en octobre. Pour cette séquence que j'ai intitulée « École et écoliers en basse marche au 19e et 20e siècle », j'ai fait appel à l'historien Alain Corbin, à des extraits de son célèbre ouvrage « Archaïsme et modernité en Limousin au 19e siècle », à Louis Peignot, un extrait de « Bramefont sur Couze » et de « La vallée de Georges Sand aux collines de Jean Giraudoux », à Georges Drouot, avec des extraits de l'exceptionnelle monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles, à Paul Lavergne, un extrait du recueil des joies de l'été et de l'histoire de Gajoubert, à Jean-Claude Vigneault, un extrait de Marceline et autres contes de la Gartempe. Jean-Claude Vigneault est un écrivain de La Croix sur Gartempe, et à Jean Leur avec un extrait de Un parfum de récré. Vous le voyez, ce thème de l'école n'a pas laissé indifférent, bien au contraire, nos écrivains de la Basse Marche.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.
À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe. Avant elle, nous étions tous des paresseux, des lèvres nés, des cancres, des crétins crasseux, en travaillant exclusivement que pour nous. Les marchands de bonnet d'âne étaient sur les genoux, étaient sur les genoux.
Paul Lavergne, qui fut institutrice à Mézières-sur-Issoire, n'avait certes pas les mêmes méthodes que la maîtresse d'école de Georges Brassens, que vient de nous chanter Maxime Le Forestier. Mais les méthodes pédagogiques de Paul Lavergne étaient tout aussi efficaces pour intéresser les élèves, les faire travailler et les faire réussir. Voici un petit poème intitulé « Écolier », tiré de son premier recueil « La joie de l'été ». J'ai le petit Albert qui est poète, qui sourit aux gouttes de pluie et qui les prend comme des coccinelles au bout de son doigt. Georges, qui se soulève sur son banc pour écrire et dont les cheveux battent de l'aile. Émile, avec des jambes rondes et ses yeux lourds où la fenêtre met des clartés. D'autres, aux petits nez retroussés, aux oreilles mal nettoyées qui ont des sourires charmants. D'autres, aux longues blouses qui les entravent pour courir. D'autres, avec de bonnes têtes dures et qui dorment en m'écoutant. Quand il pleut, les gamines se mettent en rang sous le lavabo, toutes sur la même ligne, comme des poulettes sur un perchoir. Au coup de sifflet, à travers les gouttes, les garçons chargent vers la classe dans le claquement de tous leurs petits sabots. Pour une petite histoire de l'école dans notre région, nous allons nous appuyer sur l'exceptionnelle monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles de M. Georges Drouot, publié au début du XXe siècle. Ce qu'il nous indique pour le canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles doit pouvoir se transposer dans l'ensemble du nord de la Haute-Vienne.
Les petites histoires font les grandes histoires.
Il nous indique que sous l'Ancien Régime, nous trouvons des écoles dans quatre de nos paroisses. Les Grands Chézeaux, Lussac-les-Églises, Saint-Sulpice-les-Feuilles et Arnac-la-Poste. Il s'agit bien sûr d'écoles religieuses, qui, selon les périodes, ne seront fréquentées que par 10 à 15% de la population scolarisable. Si bien que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, 87% de la population est illettrée. Les lois de la Révolution sur l'enseignement ne seront appliquées qu'avec beaucoup de lenteur. C'est ainsi que Saint-Sulpice-les-Feuilles ouvre une école élémentaire publique en juin 1833 seulement. Les élèves qui viennent pour apprendre à lire payent 1 franc 50 et ceux qui viennent pour apprendre à écrire 2 francs. Mais on apprend que 10 élèves sont admis gratuitement. Les progrès sont énormes avec l'application des lois de la Troisième République puisqu'au début du XXe siècle, seulement 5% des conscrits sont illettrés alors que la moyenne départementale est de 20%. Dans le canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles, alors que 31 élèves fréquentent la classe du certificat d'études en 1887, ils seront 79 en 1902. Paul Lavergne, dans Histoire et légendes de Gajoubert, dresse elle aussi le tableau de l'évolution de l'école dans sa commune de Gajoubert. C'est en novembre 1839 que l'école va ouvrir à Champeau, qui est un des gros hameaux de la commune. Et le 16 novembre 1867, le conseil municipal décide d'adjoindre à l'instituteur une maîtresse de travaux d'aiguille pour les filles de l'école mixte. L'histoire va se reproduire dans la plupart des communes du nord de la Haute-Vienne. Certaines auront même pléthore d'écoles. C'est le cas de la petite commune de Thia qui possédera jusqu'à 3 écoles. En effet, en 1844, en l'absence de culte catholique, les habitants de Thia firent appel à l'église de la réforme évangélique qui, en 1849, aménagea une école et fit construire un temple. Face à cette concurrence religieuse, les catholiques firent édifier une école et une église en 1861. Avec l'école publique, on arrivait bien à 3. En 1881, Jules Ferry fait voter la loi établissant l'enseignement élémentaire gratuit, laïque et obligatoire. En 1882, la scolarité obligatoire est fixée de 6 à 13 ans. Elle sera portée à 14 ans en 1936. Depuis Jules Ferry, en plus du repos du dimanche, le jeudi est laissé à la disposition de la famille. Les progrès de la scolarisation seront très rapides puisque dès 1911, 96% des 20-24 ans étaient alphabétisés.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Dans Archaïsme et modernité en Limousin, l'historien Alain Corbin nous parle d'abord de la fréquentation scolaire. L'état des chemins interdisait aux enfants de la campagne de fréquenter l'école avant l'âge de 9 ans. Il la quittait à 12 ou 13 ans et souvent à 10-11 ans. Soit pour accompagner leur père dans les campagnes d'émigration, émigration des maçons, des paveurs, des sabotiers, soit pour se consacrer entièrement aux travaux de l'exploitation familiale. Durant les 3 ou 4 ans de fréquentation scolaire, l'enfant ne se rendait à l'école que lorsque les travaux de l'exploitation ou la garde du troupeau ne le réclamaient pas, c'est-à-dire l'hiver, lorsque la saison était rude. L'école n'était conçue que comme une activité secondaire et l'enfant était considéré d'abord comme un travailleur. L'été, malgré l'optimisme des statistiques, les écoles se trouvaient pratiquement désertes. Elles n'étaient donc fréquentées que depuis le début du mois de décembre, après la récolte des châtaignes et le retour des migrants, jusqu'au début du mois d'avril, date de départ de ces derniers. À Saint-Sornin-le-Lac, constate un inspecteur, on ne dit pas qu'un enfant va en classe depuis 3 ans, mais qu'il a 3 hivers d'école. Pendant les quelques mois de leur présence à l'école, les enfants se trouvaient entassés dans des locaux qui n'étaient absolument pas destinés à être des maisons d'école. Le mobilier scolaire n'est à de rares exceptions près qu'un mobilier de fortune. Dans la Haute-Vienne, en 1840, sur 120 écoles communales, il n'en est pas 80 qui soient pourvues d'un tableau noir et de modèles d'écriture. Quelques bancs à moitié brisés, hors de proportion avec l'âge et la taille des enfants, quelques vieilles tables mal ajustées et souvent quelques planches fixées sur des tréteaux constituent le mobilier. En 1846, l'inspecteur d'académie déclare « Je ne parlerai pas du mobilier, il est presque partout nul ou la propriété de l'instituteur ». À l'intérieur de la salle de classe, les élèves formaient une masse d'âge fort disparate. Les deux sexes étaient rarement séparés, ce qui retenait bien des parents d'envoyer leurs filles. Il est à noter qu'à Bellac, les enfants des pauvres, placés comme indigents, se trouvaient isolés du reste des élèves, car tel était le désir des parents des autres enfants. Quelques-unes de ces écoles ressemblent à des magasins d'épicerie. Des livres, des cahiers épars sur des tables entre des ustensiles de ménage de toute espèce, des paquets de fils de chanvre, des cordes suspendues. Les instituteurs exercent souvent d'autres métiers. Cultivateurs, épiciers, aubergistes, tuiliers, sacristains, buralistes. Celui de Mortemart est aussi notaire. Celui de Lussac-les-Églises est licencié en droit. Alors que celui de Saint-Bonnet-de-Bellac est incapable de savoir de quel verbe un substantif est le sujet. Le plus extraordinaire est celui de La Croix-sur-Gartempe. Le sieur Vigneault, ancien curé de la commune, tient dans le bourg cabaret et maison de prostitution tout en faisant l'école.
Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? J'ai appris qu'il ne faut mentir jamais, qu'il y a des bons et des mauvais, que je suis libre comme tout le monde, même si le maître parfois me gronde. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école.
Alors que valait à cette époque la pédagogie des maîtres? Dans son ouvrage « Brabant-sur-Couze », Louis Peignot nous parle ainsi de l'école de Saint-Symphorien-sur-Couze, où dans les années 1860, un enfant du bourg, Pierre Lefort, rétribué par le conseil municipal, ouvrit école dans sa maison en face de l'église. Alors que valait sa pédagogie et sa discipline? Au dire d'un de ses anciens élèves, disparu lui aussi, François Couillot, M. Lefort avait ses habitudes. L'hiver, il se faisait apporter en classe par sa femme Marinette l'houle aux châtaignes dès qu'elles étaient prêtes. Le couvercle soulevé, une épaisse fumée s'élevait, et c'est le moment qu'attendait un élève facétieux du nom de Gouttelard pour ramper vers l'houle ouverte, y plonger la main, puis revenir à sa place tandis que les rires fusaient. Le maître empoignait alors sa longue baguette, dressée en permanence derrière lui, et tentait d'atteindre le fuyard, instant délicieux de détente dans l'aridité du travail scolaire. Les choses changèrent qu'en vain vers la fin du XIXe siècle, un maître dont le souvenir ne s'effacera qu'avec la disparition de tous ceux qu'il a éduqués, M. Béran, qui a marqué de sa personnalité, de ses réelles qualités d'éducateur plusieurs générations. Il fut un maître incomparable. Une photographie ternie de la classe de 1904 nous le montre au milieu de ses élèves, eux-mêmes en blouse noire et sabots de bouleau. Une épaisse moustache grisonnante barre sa lèvre supérieure et sa tête est coiffée d'une calotte noire à la mode d'autrefois.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Même si les communes font construire de nombreuses maisons d'école dans les gros hameaux, Blon, par exemple, comptera selon les époques jusqu'à 5 écoles. Les deux écoles du bourg, plus celle du hameau de Belay, celle du hameau d'Intrat et celle de Boismort. Malgré ces constructions, les écoles sont loin et les enfants s'y rendent à pied. Louis Peignot, dans Brabant-sur-Couze, nous explique. Les écoliers sont venus vers le bourg par des chemins rocailleux, encaissés entre les murailles de pierre qui bordent ici par tous les champs. Ces chemins, montants, sablonneux, malaisés, ils ne les suivaient d'ailleurs pas toujours. Pareil aux brebis, ils aimaient s'égayer dans la nature. Les petits sentiers à travers les prés et la châtaigneraie avaient leur préférence. Ils arrivaient à l'école les pieds mouillés, ayant boulé dans les innombrables rigoles de ces vallons ruisselants d'eau, mais les joues rouges, et nul ne s'enrhumait. Thank you. Nous allons rester sur le chemin de l'école, cette fois dans la commune de La Croix-sur-Gartempe avec Jean-Claude Vigneault. De l'école, c'est le chemin qui avait notre préférence. Il était l'instrument sur lequel nous faisions jouer nos sabots. Chaque saison nous offrait l'occasion d'une musique particulière. Sabots qui claquent sur le sol gelé de décembre, sabots qui crissent dans la poussière de juin, sabots qui pataugent dans la boue de novembre, sabots qui bruissent sur l'herbe fraîche des accotements en avril. Tôt le matin, le peuple des enfants se rend à l'école. Les grands devant, les petits qui tentent de suivre, les filles qui papotent et quelques curieux qui s'arrêtent pour repérer un objet ou un animal intéressant et repartent en courant pour rejoindre le groupe. Ceux des plats qui sont partis depuis une bonne heure lorsqu'ils passent devant l'église et rejoignent au carrefour ceux de Robérolles, partis un peu plus tard. Tous avancent d'un bon pas, et s'il leur arrive de traîner les pieds, ce n'est point par paresse, mais pour user les têtes des clous, afin ce soir de mieux pouvoir glisser sur toute la surface de la glace qui voudra bien se présenter sous leurs sabots. La route fatigue les petites jambes, mais elle est tellement plaisante que pour rien au monde, ceux d'Ambay ou des Plats n'échangeraient leur domicile avec ceux de chez Perrault ou de chez Tronchot. Et si nous sommes bien heureux, nous, les nantis, qui sommes à quelques enjambées de l'école, de dormir une demi-heure de plus chaque matin, nous sommes tout de même un peu jaloux de n'avoir rien vu, rien entendu, ni rien pris, avant de franchir le seuil de la classe. Alors, parfois, le soir, nous accompagnons un groupe jusqu'à la Grenouille ou jusqu'aux quatre routes et nous rentrons ensuite le plus vite possible pour ne pas trop éveiller les soupçons. Quelques petits textes sur la récréation. D'abord à Saint-Symphorien-sur-Couze. Les récréations avaient alors un agrément qu'ignorent les écoliers d'aujourd'hui. Songez donc, pas de cour fermée de murs, mais toute la colline qui surplombe l'école. Quand retentissait le sifflet du maître, nous étions tous éparpillés sur la crête. Alors, la classe entière dégringolait de là-haut en criant et en roulant. Un de nos grands amusements était de suivre à travers champs les géomètres qui venaient jalonner de piquets rouges et blancs la ligne du futur tramway électrique. La récréation à la Croix-sur-Gartempe. La mixité s'interrompt pour les récréations. Les filles ont droit à la cour de devant, la cour d'honneur. On peut les voir s'ébattre de la route. Alors que les garçons sont rangés à l'arrière, près du jardin et de la cantine. Il n'est pas exclu d'ailleurs que cette position ait été choisie pour permettre à l'instituteur de prélever de la main-d'œuvre afin d'effectuer quelques menus travaux dans le jardin. Et Jean-Claude Vigneault d'expliquer que c'est un honneur pour l'élève d'être choisi pour aller à la récréation travailler dans le jardin du maître. Il ajoute « La récréation n'est pas pour l'instituteur un moment à haut risque, mais l'occasion de se retirer dans ses appartements pendant que nous jouons paisiblement dans la cour. »
En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées et puis ses beaux naufrages et ses sauts.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.
Pour terminer, deux séquences en classe. Et la première, à la Croix-sur-Gartempe, sous l'occupation. Notre école, nous dit Jean-Claude Vigneault, est une école moderne où les enfants ne sont pas séparés en fonction du sexe, mais en fonction de l'âge. Il y a la petite et la grande classe. Et pour passer de l'une à l'autre, il faut savoir lire et compter. Si vous êtes capable de passer des entiers au nombre décimaux, et si la division à deux chiffres ne vous paraît pas insurmontable, alors vous pouvez franchir la porte et entrer chez les grands. Ou bien, solution moins pédagogique, vous avez atteint une telle envergure que vos déplacements les plus innocents mettent en péril vos petits camarades. Dans les deux cas, le temps est venu de passer de l'autorité bienveillante de la maîtresse à celle plus ferme du maître. Nous sommes donc dans une école où le mérite rivalise avec l'ancienneté. La journée s'écoule suivant un rituel bien maîtrisé qui ne connaît même pas les variations que nous offre la liturgie de l'Église. Ici, pas de dimanche de l'Avent ou de troisième dimanche après la Pentecôte. Entrée à 9h. Les élèves s'installent. Les grands du certificat au premier rang, les autres aux deux rangées suivantes avec, on peut l'imaginer, quelques luttes sourdes mais discrètes pour décrocher la place à côté du poêle. Il est préférable de se trouver au milieu du banc plutôt que sur les côtés si vous avez tendance à commettre quelques erreurs de calcul ou si vous êtes fâché avec l'orthographe. Les places du bord facilitant les coups de règle et autres petits rappels à l'ordre qui font partie de notre quotidien. Une fois installé, l'instituteur ouvre la porte qui sépare les deux classes. Et armé de son violon et de son archet, attaque une chanson que nous reprenons en chœur. Cette séance d'éveil artistique a une double visée, nous enseigner quelques rudiments musicaux, mais aussi permettre à l'institutrice des petits de finir son ménage et de se préparer à entrer en scène. Le chant, aussi noble qu'il soit, peut parfois conduire à l'endoctrinement. C'est ainsi que, volontaire ou contraint, comment savoir, l'instituteur nous apprend à chanter le « Peu glorieux maréchal, nous voilà ».
Nous voilà, devant toi, le sauveur de la France, nous jurons.
L'air non plus, les paroles beaucoup moins. Et comme la poésie appartient à tous, nous remplaçâmes le sauveur par l'affameur et fîmes rimer « Maréchal, nous voilà » avec « Ô irrespect, sans pinard et sans tabac.
Renaîtra, maréchal, maréchal, nous voilà.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Une autre séquence à l'école, à Bellac, cette fois avec Jean Leur. Après avoir fait recopier le poème de Lecomte de Lisle, Les éléphants, le maître nous demande maintenant d'écouter un disque. Et l'électrophone, dernière nouveauté moderne, diffuse un air d'abord imperceptible qui se rapproche peu à peu, de plus en plus distinct, exactement comme cette harde d'éléphant apparue à l'horizon sur les dunes qui trace son sillage poussiéreux dans le sable du désert. Georges, c'est l'instituteur. Il s'appelle en fait Georges Déchérat, c'est le poète de Bellac à qui nous consacrerons une séquence. Georges explique que c'est une musique de Borodine, particulièrement adaptée à ce texte qui décrit la progression d'une caravane dans les steppes de l'Asie centrale. Et, en fermant les yeux, il nous semble entendre se rapprocher le troupeau au piétinement lourd. Il faut maintenant le poème sur la page de gauche, mais le dessin de ces pachydermes n'est pas chose aisée. Il faudrait un modèle. Ça y est, j'ai trouvé. Mes buvardes réclament du thé de l'éléphant récupéré à la foire exposition feront l'affaire. Je découpe minutieusement l'animal symbole de la marque de tisane et j'obtiens un gabarit relativement rigide, reproductible à l'infini, dont le motif couvre bientôt toute la feuille, et tant pis si le spécimen représente un individu de l'espèce asiatique. Merci de nous avoir suivis pour cette séquence des petites et grandes histoires de la basse marche consacrée à l'école et aux écoliers. Nous avons utilisé les textes de Paul Lavergne, de Georges Drouot, d'Alain Corbin, de Louis Peignot, de Jean-Claude Vigneault et de Jean Leur. Sur le plan musical, nous avons fait appel à Georges Brassens et Maxime Le Forestier, à Graham Holwright, aux frères Jacques, à André Lassary, au compositeur de la musique du film Jacques ou le croquant, Georges Delerue, mais aussi à la musique traditionnelle du Limousin, au groupe Parasol et Maluzerne, et à Alexandre Borodine que nous écoutons en ce moment. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à un personnage, à une personnalité de la basse marche, Jean Le Sault, le Jean Le Sault de Paul Lavergne. Très bonne semaine à vous tous et à bientôt.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région. La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.